Allez, bon réveil si vous vous levez maintenant. Belle matinée pour ceux qui sont déjà sur le chemin du travail. Il est 7h. Belle écoute sur Radio Chablais.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Et pour le journal, on retrouve Yves Terny. Bonjour Yves.
Bonjour. Le PLR a déposé deux recours contre les votations cantonales du 27 novembre en Valais. Il dénonce dans un communiqué diffusé hier soir un manque d'objectivité et d'impartialité du Conseil d'État dans la brochure explicative liée à cette votation. Le premier reproche concerne la nouvelle loi sur les allocations familiales soumise au peuple après un référendum déposé par le PLR et l'UDC du Haut-Valais. Le second recours a trait quant à lui aux explications du gouvernement valaisan sur la loi sur les soins palliatifs et l'encadrement de la pratique de l'assistance au suicide en institution soumise à référendum obligatoire. La votation cantonale du 27 novembre aura ainsi lieu sous recours, indique le PLR dans son argumentaire d'une vingtaine de pages à 4 transmis aux médias. La REGA, la garde aérienne suisse de sauvetage, fêtera ce prochain week-end ses 70 ans et pour marquer cet anniversaire, elle organisera une journée portes ouvertes dans sa base sédunoise, une occasion pour la population de découvrir le fonctionnement de ce service. Patrick Klaus, ambulancier à la REGA et futur chef de la base de Sion.
Dans le cadre des 70 ans de la REGA a décidé de pouvoir donner la possibilité aux gens et justement pour remercier les donateurs de venir voir au plus près du travail qu'on fait, c'est-à-dire de venir à la rencontre des gens qui travaillent sur le terrain. Et puis du coup, on va avoir non seulement deux hélicoptères, un H-145 et un Agusta qui seront là à Sion, mais aussi un jet. Et ça va permettre aux gens de pouvoir découvrir vraiment de manière très directe le travail qu'on fait en venant directement aussi vers les équipages, parce que les équipages seront aussi présents sur place. Donc tous les corps de métier seront représentés, que ce soit autant pilotes, médecins que paramédics.
Patrick Klaus répondait à Martine Wistiner. Les techniques de sauvetage ont beaucoup évolué avec les années. Les missions de la REGA se sont multipliées. Sauvetage en montagne, intervention sur accident, mais aussi transfert des patients et rapatriement. Les jeunes LGBTIQ+, sont un groupe plus fragile, estime l'association Alpagay, raison pour laquelle elle a créé à monter un nouvel espace de parole pour les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes ou queer. L'occasion pour ces personnes d'échanger des expériences, des questionnements ou des inquiétudes. Andreas, 19 ans, sera l'un des deux animateurs de ces rencontres mensuelles. Né femme, il se définit aujourd'hui comme un homme transgenre. Il partagera son vécu acquis lors des différentes étapes qu'il a traversées dans son processus de changement.
J'ai d'abord commencé à prendre des hormones. C'est un peu l'étape par laquelle beaucoup de gens commencent. Et ensuite, j'ai fait une mastectomie ou torsoplastie, qui est l'ablation de la poitrine.
C'était important de supprimer ce signe clair, net, précis d'appartenance à un corps féminin.
Alors oui, surtout pour l'habillement, mais oui, parce que c'était quelque chose qui me rendait mal à l'aise dès que j'étais en public. Je supportais pas, je mettais des vêtements beaucoup trop grands pour pas que ça se voie. J'avais l'impression que c'était toujours le truc... quand on voit ça, bien sûr qu'on se dit que ce n'est pas un homme. Donc ça m'a été... c'était très important.
Des propos recueillis par Justin Gray. Andreas animera les rencontres mensuelles organisées à monter par l'association Alpagay. La première se tiendra ce mercredi de 17h à 20h à Soluna, le service jeunesse de la ville. Retrouvez le témoignage intégral d'Andreas sur notre site radiochablais.ch. Actualité nationale, le conseiller national écologiste fribourgeois Gérard André, candidat au Conseil des États lors des élections législatives fédérales de 2023. Il est le premier représentant de l'Alliance de gauche à dévoiler ses ambitions. C'est la question brûlante de cet automne. Quels salariés auront droit à la pleine compensation du renchérissement le 1er janvier 2023? Un signal encourageant est donné par les industries horlogères et microtechniques couvertes par une convention collective, soit un peu plus de 500 entreprises. Les partenaires sociaux ont convenu hier d'une hausse de 3,5% des salaires en moyenne et même un peu plus pour les bas salaires. Et la satisfaction est de mise du côté des négociateurs sociaux, puisque faire progresser les salaires de 3,5% ne va pas forcément de soi. Le responsable de la branche horlogère au syndicat Unia, Raphaël Thiemard.
C'est un succès parce qu'il n'y a pas d'automatisme sur la compensation du renchérissement. On est habitué dans la branche horlogère à ce genre de négociations chaque année et en général ça se passe assez bien.
Le résultat c'est même un peu mieux que la compensation du renchérissement. Comment on est arrivé à ce 3,5%?
On prend comme point de comparaison l'inflation entre août et août d'une année sur l'autre. Ce qui est intéressant dans le mécanisme, c'est pas forcément 3,5% pour tout le monde, les salaires les plus bas vont pouvoir bénéficier d'une sorte d'effet de plancher. On peut avoir une augmentation qui correspond à 4 ou 5%, ce qui est aussi une façon de corriger les plus bas salaires et de mieux les soutenir face à l'inflation.
C'est un sujet réalisé par notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin. Quelques 2500 maçons tessinois ont battu le pavé à Bellinzone hier pour appuyer leurs revendications sur leurs conditions de travail. Travailleurs et syndicats accusent en effet la Société suisse des entrepreneurs de vouloir conditionner la hausse des salaires à un nouveau cadre de travail qui péjorerait grandement la situation actuelle et introduirait une forme de travail sur appel. Cette journée de protestation marquait le coup d'envoi d'une série de rassemblements du même genre prévus ces prochaines semaines en d'autres endroits du pays, et notamment en Suisse romande, les 7 et 8 novembre. À l'étranger, au moins 13 personnes, dont 3 enfants, ont perdu la vie après le crash d'un avion militaire russe Su-34 hier dans la ville russe d'Iyeïsk, proche de l'Ukraine. L'accident a provoqué un gigantesque incendie dans un immeuble où résident environ 600 habitants. Le ministère russe des situations d'urgence a indiqué dans un communiqué que les sauveteurs avaient terminé la fouille des décombres, découvrant 10 corps supplémentaires après avoir annoncé la mort de 3 personnes. 19 personnes ont également été blessées. En France, la principale suspecte du meurtre de Lola vendredi à Paris, une femme de 24 ans, a été incarcérée hier. Elle est soupçonnée du meurtre et de viol aggravé sur la collégienne de 12 ans, a annoncé un juge des libertés et de la détention. On termine avec du sport. Football, Challenge League, 11e et 12e journée. Neuchâtel, Xamax et Chafouz ont fait match nul 1-1. Hier, succès d'Yverdon à l'extérieur face à Thun 3-1. Au classement, Lausanne Sport est en tête devant Stade Lausanne-Ouchy. Yverdon est 3e et Xamax continue à fermer la marche. Enfin, en cyclisme, après le Tour de France en 2022, les routes valaisannes accueilleront celui d'Italie l'an prochain. Le Giro fera ainsi halte à Crans-Montana pour une arrivée d'étape prévue le 19 mai, avant de partir le lendemain depuis Sierre. Presque 60 ans ont passé depuis le dernier passage du Giro en Valais. C'était en 1963 avec une arrivée jugée à Loëche-les-Bains. Grâce aux récentes organisations, notamment lors du Tour de France ou encore du Tour de Romandie, le Valais a bonne presse de l'autre côté de la frontière. Steve Morabito, président de l'association valaisanne de cyclisme et directeur général du comité d'organisation.
Oui, je pense clairement, c'est important pour un grand organisateur comme le Giro, comme RHC Sport, de confier ces étapes à des gens qui savent organiser. Et puis le Valais a pu montrer ces dernières années qu'il soutenait vraiment le vélo, le VTT. Et puis quand on accueille des étapes du Tour de Romandie, du Tour de Suisse, quand on est sur les projets des championnats du monde VTT aussi, on a d'autres championnats du monde qui ont été organisés, ben ça démontre qu'il y a un certain savoir-faire et ça aide pour attribuer, je pense, les candidatures.
Steve Morabito. Avec Ludovic Turin, notez que l'étape qui se termine à Crans-Montana fera office de point culminant lors de ce Tour d'Italie 2023 avec ses 201 km pour plus de 5000 mètres de dénivelé. L'épreuve promet d'être spectaculaire.
Merci beaucoup Yves, on vous retrouve tout à l'heure à 8h pour le journal.